Les discrets présentent curieuse expression.
Combien de fois j'ai dit, moi, ça, mais tu n'as rien pour attendre.
Oui, ça, c'est une formule qu'on entend assez souvent.
Oui. Nous l'avons beaucoup dit.
Oui, certainement.
Et un esprit de vengeance, ça peut l'attendre.
Ah oui.
Ou en tout cas, un souhait que ça tourne mal pour la personne. C'est une sorte de souhait.
Voilà, n'aie pas peur, tu seras puni.
Voilà. Alors, il y a la loi des équivalences, c'est une loi universelle. Alors, les Juifs disaient œil pour œil, dent pour dent, ils avaient cru qu'il fallait se venger, c'était pas ça du tout que ça voulait dire.
Ça voulait dire que
de toute façon, ce que vous avez fait, ça vous revient un jour. Et puis, il y a l'expression populaire qui dit aussi d'une façon différente, c'est quand on crache en l'air, ça vous retombe sur le nez. Et ça veut dire la même chose. Voilà, mais je pense en effet que rien n'est jamais gratuit. Rien n'est jamais gratuit, ce qu'on fait, ça vous revient toujours un jour.
Et
dans un sens comme dans l'autre, le bien comme le mal, hein, s'entend. Je pense que c'est une loi universelle.
C'est un peu une
loi des équivalences, ça s'appelle.
Je dirais que c'est un peu un boomerang. Ça vous revient
absolument comme le boomerang. Oui.
Mais on le souhaite quand même quand on dit tu ne paies rien pour
attendre.
On le souhaite en plus.
Oui. Alors là, c'est pas bien.
Voilà.
Parce qu'on doit pardonner.
Oui, le temps de la joue et l'autre. C'est fini, ça. Moi, voyez ma formule à moi maintenant, c'est la délicatesse se retourne contre nous. Depuis que le monde a évolué dans le mauvais sens. Il y en a qui disent que c'est mai 68, moi j'en sais rien. Je ne me suis même pas posé la question. C'est possible.
C'est vrai.
Je pense que mai 68 a fait du bien, mais beaucoup de mal aussi. Oui. Le temps de la joue et l'autre. C'est fini, ça. Ça nous a dépassés, nous.
Tout est mort dans le ciel ce soir. radioactive.
Radioactive.
La Touraine a trouvé sa radio.
Giorno che ti ho abbracciato, subito dopo mi hai baciata, non so più dove è successo, vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio.
Pour le jour où l'on s'est enlacé, juste après nous nous sommes embrassés. Je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je voudrais juste te dire grazie. Pour la nuit où l'on s'est lancé, juste après nous nous sommes embrasés. Je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je voudrais juste te dire grazie.
Per il giorno che ti ho abbracciato, subito dopo mi hai baciata. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo la libertà.
Grazie. les heures, tous les deux mélangés. Juste après nous, nous sommes dépassés. Je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je voudrais juste te dire grazie. Pour nos bras ouverts décroisés, pour nos mains tendues détachées, nos visages lumineux apaisés, nos vies communes attachées, nos corps à l'unisson chantés. Je voudrais juste te dire grazie. Pour les heures tous les deux mélangés,
le jour que tu embrasses,
juste après nous. Je ne sais pas où tout ça s'est passé.
Je chiamo la grande avventura.
Je voudrais juste dire grazie. Pour nos bras ouverts décroisés.
Il giorno che ti ho abbracciato.
Pour nos mains tendues détachées.
Subito dopo mi hai baciato.
Nos visages lumineux apaisés.
Non so più dove è successo.
Nos vies communes attachées.
Il giorno che ti ho abbracciato.
Nos corps à l'unisson chantés.
Subito dopo mi hai baciato.
Je voudrais juste dire grazie. Pour le jour où j'étais enlacé, juste après toi tu m'as embrassé. Je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je voudrais juste dire grazie.
Radio Radioactive.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Regard Pluriel. Alors pour cette nouvelle édition, j'ai choisi de lui donner en fait une nouvelle orientation cette année, cette nouvelle année, à savoir présenter la psychogénéalogie et la généalogie, pas n'importe quelle généalogie, celle de Claire Marty, donc généalogiste, qui est donc mon invitée du jour. Bonjour Claire.
Bonjour Katia.
Alors écoute, comme la dernière fois, puisque tu étais mon invitée de l'émission précédente, je voulais te remercier d'animer cette émission avec moi, à mes côtés. Depuis qu'on s'est rencontrés, on n'avait aucun doute là-dessus, mais c'est vrai qu'on s'est très rapidement dit que nos deux pratiques étaient complémentaires.
Oui, tout à fait.
Et que du coup, on s'est dit, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on poursuive ce premier élan. Et donc, du coup, puisqu'on avait des thématiques communes, on a choisi d'aborder en fait aujourd'hui...
Les prénoms.
Ok, donc les prénoms. Et Claire, c'est toi qui vas commencer, en donnant l'étymologie peut-être du mot prénom.
Oui. Alors, donc le prénom... En fait, donc d'un point de vue étymologique, comme on dit, c'est tiré du latin praenomenum, et ça désigne dans la Rome antique le nom qui précède le nom de famille et qui permet donc de distinguer les individus.
Alors c'est vrai que c'est ce qui nous fait dire que le prénom est quand même très important en termes d'individuation, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de nous distinguer des autres membres de la famille. Moi c'est vrai qu'en psychogénéalogie, pour certains et certaines de mes consultantes, j'étais amenée à rencontrer des personnes qui portaient le même prénom que leurs parents, du même sexe. Parfois même ce prénom était masculinisé ou féminisé. Et je me suis aperçue que pour ces personnes, alors évidemment, je ne vais parler que des personnes pour lesquelles ça a posé problème, parce que sinon ils ne viennent pas me voir, évidemment. Mais du coup, je me dis, c'est quand même pas anecdotique de récupérer donc le prénom de son parent. Il y a forcément en fait une injonction derrière, celle notamment de, je ne sais pas, vis une meilleure vie que la mienne, ne m'oublie pas. Cet enfant devenu adulte, il pourrait osciller en fait entre vivre sa propre vie et celle de son aïeul. C'est ce que je constate par rapport à ce que tu viens donc de dire. Bref, après cette petite aparté. Claire, est-ce que tu peux nous conter l'histoire du prénom depuis son origine? Parce que je pense que ça va intéresser nos auditeurs et auditrices.
Alors, tout simplement, nous, ce qu'on connaît de l'histoire du prénom historiquement, donc ça remonte assez loin, c'est-à-dire aux alentours du 5e siècle, après les invasions germaniques et puis l'effondrement de l'Empire romain. Donc, les individus avaient avant plusieurs prénoms, un nom de famille, et ils sont progressivement passés à un seul prénom, enfin, un seul nom qui était leur nom de baptême, en fait. Mmh. Voilà.
Ça, ce nom de baptême, c'était parce que du coup, il fallait bien les distinguer de tous les autres. C'était ça. Qu'est-ce qui a fait qu'on est parti sur ce nom de baptême?
Alors, le baptême existe depuis Rome, hein, tout simplement. Il fallait effectivement individualiser les personnes, hein, tout simplement. Il fallait leur donner un prénom pour les différencier. Et si on va plus loin, le baptême, et donc le fait de donner un prénom, ça allait encore beaucoup plus loin, c'était mettre l'enfant sous la protection du parrain, en l'occurrence, puisqu'à ce moment-là, c'était le parrain qui donnait ce nom. Et donc le parrain pouvait porter le nom d'un saint, tout simplement. Donc on remettait l'enfant sous la protection de ce saint. Ça pouvait être un saint local, un saint régional, peu importe. Le but du prénom, donc, c'était de faire entrer l'enfant, le nouveau-né, dans la communauté, particulièrement la communauté religieuse, et de le placer donc, sous la protection du parrain.
D'accord. Donc du coup, d'où le fait que le baptême avait souvent lieu très peu de temps après la naissance. Enfin, très souvent, c'était dans les jours qui suivaient. Ok. Est-ce que donc du coup, il y a des prénoms évidemment qui reviennent. Est-ce que tu peux donner des exemples de ces prénoms là qui sont que l'on retrouvait et qu'on retrouve encore aujourd'hui, parce que par ricochet, par transmission, on les retrouve de nos jours.
Voilà, si on part sur les prénoms latins, donc qui ont été francisés depuis le temps, il y a eu en fait très très peu de prénoms, je dirais une dizaine de prénoms masculins, une dizaine de prénoms féminins qui nommaient à peu près 30 à 50% des populations à l'époque. Donc c'est Jean, c'est Pierre, François, Louis pour les hommes. Et pour les femmes, on retrouvait toujours prioritairement Marie, Jeanne, Anne, Françoise ou encore Catherine.
Ok, donc il n'y avait pas beaucoup d'originalité dans en fait le choix des prénoms. En fait, à cette époque, est-ce que tu as retrouvé des prénoms qui sortaient justement de ce schéma-là?
Alors, en fait, donc ce schéma s'explique déjà historiquement parce que c'est l'Église catholique qui a imposé. Avec le Concile de Trente, hein, dans les années 1435, il a carrément imposé de donner aux nouveau-nés des noms de saints. Donc on retrouvait toujours ces noms de saints. Okay. Mais par contre, après quelques temps, donc il y a eu quelques prénoms comme Julien ou Rose qui sont apparus, ce qui était vers la fin 12e, je crois. On s'est un petit peu éloigné de la tradition, mais malgré tout, les prénoms des saints restaient imposés jusqu'à la Révolution. Donc il a fallu attendre la Révolution pour que les prénoms un peu plus modernes, on va dire, ou plus originaux, fassent leur apparition.
Et avec également les deuxième et troisième prénoms.
Alors ça, c'est pareil, hein, ça a été une évolution donc par rapport à la tradition. On était quelque part, on vivait toujours dans la chrétienté, obligé, on va dire, de respecter les coutumes chrétiennes, mais il y a eu aussi l'évolution de la démographie, hein. Il y a eu beaucoup plus de gens, de population. Mmh. Et là, c'est devenu compliqué. Donc, tout le monde s'appelait Jean dans le village, Jean ou Louis, Jean fils de Jean, qui était aussi fils de Jean. Il a bien fallu, à un moment, ouvrir un peu, individualiser un peu plus les gens, donc donner un deuxième ou un troisième prénom.
Ok. Et alors, tout le monde ne porte pas de deuxième et troisième prénom, mais bon, on verra que quand même ces deuxième et troisième prénoms relèvent plutôt en fin de compte de l'aspect affectif et tu dis, enfin, mais peut-être oui, affectif, parce que moi c'est souvent ça en fait, mais on verra par la suite ce qu'il en est réellement. L'attribution, en fin de compte, donc, d'un prénom, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce choix revient généralement, en fait, aux parents. Et c'est d'ailleurs pour eux la première occasion d'exercer leur autorité sur la progéniture et de casser éventuellement un peu, enfin, un schéma familial ou pas, ou de le poursuivre, de le répéter. Mais ça n'a pas toujours en fait été le cas. On est d'accord, Claire. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus?
Alors, je dirais qu'à l'époque, il y avait une certaine, règle qui était suivie. Quand les parents donnaient le nom à leurs enfants, le premier-né recevait le prénom du père ou de la mère. Du père si c'était un enfant, et si c'était une fille, il recevait le prénom de la mère. Le cadet recevait le prénom du grand-père ou de la grand-mère maternelle. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va dire, il fallait toujours une parité dans les lignées. Le troisième enfant allait donc recevoir le prénom du grand-père ou de la grand-mère maternelle à ce moment-là. Et c'est seulement après qu'il y avait un peu plus de largesse au niveau de... Parce qu'il y avait quand même rarement que trois enfants dans une famille. Donc,
surtout à l'époque.
Ceux d'après donc, pouvaient porter le prénom du parrain, pouvaient porter le prénom d'un ami. Donc, il y avait à ce moment-là un peu plus de largesse au niveau du prénom qui était toléré. Quoi.
Donc, en fait, quand ce n'est pas... Donc, avant que ce soit donc, les parents qui choisissent donc, le prénom de l'enfant, c'était donc le parrain et la marraine qui choisissaient.
Oui, en fait, le parrain et la marraine se substituer complètement aux parents. C'était eux qui baptisaient l'enfant à l'église, hein, c'était pas les parents. Et donc, ils leur attribuaient assez souvent leur prénom. C'était une façon de créer un lien avec l'enfant, non seulement affectif, mais un lien spirituel, parce que l'église va passer son temps aussi à rappeler la fonction religieuse du baptême. Et le parrain... sous-entendu la marraine également, avait pour obligation d'instruire l'enfant dans le monde de la chrétienté, de le faire vivre selon les préceptes de l'Église. Et donc c'était un rôle très très important qu'il ne fallait pas négliger. Hein.
Qu'on a tendance en fait à oublier, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la fonction, même si quand même, on le dit encore aujourd'hui, que ça ne se fait pas de refuser... En fait, la proposition de devenir,
parrain
ou marraine. Mais c'est vrai qu'on est loin, finalement, de ces injonctions religieuses de l'époque.
Voilà de l'importance que ça a pu avoir. Ça a été jusqu'à ce qu'on enterre un parrain et une marraine qui avaient refusé un parrainage, on le traitait en hérétique. On a vu des obsèques se faire. Par exemple, il y a une région où on leur croisait les mains dans le dos. Contrairement au bon catholique où on lui croisait les mains sur le ventre. C'était vraiment ça devenait des parias.
Donc du coup, se créer en fait un lien, il se substituait aux parents en fait, surtout au cas de, enfin dans le suite au décès donc des parents. Hein, c'était surtout ça en fait à une époque. Les parrains marraines étaient choisis comment? En fait, à ce moment-là, ouais.
Principalement dans la parenté toute proche. Donc, on demandait d'abord aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux cousines. Parfois, quand on avait fait le tour, on demandait aux frères et aux sœurs plus âgés, en fait, de devenir parrain de leur petit frère ou de leur petite sœur. Et donc, une fois encore, comme il y avait beaucoup d'enfants, une fois qu'on avait dépassé le stade de la famille, épuisé la famille, voilà, on allait chercher un peu plus loin. Alors, en général, ce qui était très recherché, c'était les parrains un petit peu prestigieux. Donc, le notable de la famille, des personnalités, ou voir ceux qui avaient un peu d'argent. Bon, ça avait l'avantage pour la famille de créer un certain tissu, enfin, d'enrichir leur tissu social au sein de la communauté aussi.
D'accord. Et ça, c'était parfaitement accepté de la part du parrain et de la marraine. Alors, parce que le statut social étant différent...
Alors, c'était de toute façon, quelque part, on l'a dit tout à l'heure, parrainage ne se refusait pas.
Ouais.
Après, il y a eu une règle comme quoi, enfin une règle édictée par l'Église, comme quoi on devait s'en tenir à peu près à trois parrainages par famille.
Oui.
En même temps, les parrains refusaient rarement parce que ça aussi, chaque parrainage rachetait un de leurs péchés. Donc,
Ah, on a oublié, en fait, on a oublié tout ça, hein, mais ouais. Bon.
Voilà.
Est-ce qu'il y avait d'autres... comment je vais dire? Est-ce qu'il y avait d'autres transmissions par rapport, en fait, à un prénom? C'est-à-dire que... de quoi s'inspirait-on, en fait, en dehors du parrain et de la marraine, quoi? Est-ce que tu as des exemples? Je ne sais pas, par exemple... Si je parle de Vincent Van Gogh, il y avait des prénoms que l'on redonnait en fait après un enfant qui était décédé précocement.
Alors oui, il y a eu le phénomène de comment dire de continuité de la lignée, c'est-à-dire il était important parfois pour certaines familles de redonner le prénom de l'enfant disparu, de l'enfant qui devait naître au prochain. Un peu comme si, ben, comme s'il mourait pas, comme si on le maintenait dans la famille. Donc, il était fréquent que si l'aîné s'appelait Pierre, qu'il mourait, eh bien, le deuxième qui allait naître s'appellerait Pierre également.
Ouais, donc c'est vrai qu'on a les deux grands cas de figure, c'est donc Vincent Van Gogh et puis Salvador Dali. Donc ça les a rendus, en fait, enfin Vincent Van Gogh surtout, c'était extrêmement compliqué. Ça veut dire aussi que c'est une façon de remplacer ce frère ou cette sœur qui est décédée précocement. En fait, c'est une manière de se dire. Il y en a un qui est parti, mais du coup, on essaye
de combler le vide.
Bon, ce qu'on appelle, nous, en fait, en psychogénéalogie, un enfant de remplacement, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des attentes quand même particulières par rapport à cet enfant-là. Mais du coup, c'est super intéressant. Ça, c'était encore valable jusqu'à récemment. Moi, j'ai l'impression que oui. Mais...
Alors, c'était très très fréquent, entre le Moyen-Âge et le 18e siècle au moins, peut-être un peu plus loin. Après, ça se vérifie moins au niveau généalogique. Je dirais que dans ce cas, le prénom va plutôt réapparaître, pas dans le premier prénom, mais dans un des, comme il y aura plusieurs prénoms, dans un des prénoms, le deuxième, le troisième ou le quatrième.
D'accord, pas nécessairement pour le premier, quoi.
Non.
Ok, donc en fait, d'un point de vue généalogique, quelles sont, Claire, les fonctions premières d'un prénom?
Alors, la fonction première, c'est évidemment, c'est un marqueur identitaire. Mm-hmm. Donc c'est pour marquer l'individualité de la personne.
La retrouver pour éviter qu'il y ait des confusions, en fait, avec un autre. C'était l'occasion, tu l'as dit tout à l'heure en fait aussi, c'était d'introduire en fait le nouveau-né, c'était ça cette fonction-là.
Voilà, le placer, enfin ce qu'on disait, l'introduire dans la communauté et le placer toujours sous la protection d'un saint.
Donc tu l'as dit, on choisissait les prénoms en fait en fonction de la place dans la fratrie. J'imagine que l'attribution d'un même prénom sur plusieurs générations donc, peut rendre la tâche plus complexe donc, pour un généalogiste ou une généalogiste comme toi. Est-ce que tu peux nous dire comment et pourquoi ça peut être entravant pour tes recherches, en fait?
Déjà, bon, pour une question évidente, c'est que donc il faut pouvoir identifier la bonne personne quand on a des homonymes, en particulier entre père et fils, ou entre plusieurs enfants qui vont porter le même nom et le même prénom. Donc ça, après, il faut se fier à l'âge, se fier éventuellement aux professions pour retrouver. Il y a le généalogiste qui débute, par exemple, qui va se retrouver souvent confronté à ce problème-là quand il va voir les recensements. Parce que dans les recensements, l'état civil n'était pas figé. Donc on se présentait avec son prénom usuel et non son prénom de baptême. Et ils étaient rarement pareils. Particulièrement quand Jean va être le fils de Jean, le fils Jean ne va pas se faire appeler comme son père. Donc il va choisir un autre de ses prénoms. Et à ce moment-là, on retrouvera Jules, par exemple. Et donc, quand on n'est pas habitué en généalogie, on se demande pourquoi on retrouve un certain Jules dans le recensement et pas Jean.
Et pas Jean.
Voilà.
Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle... Alors, je ne sais pas si tu peux répondre en fait à cette question, hein, mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle un prénom... comment je vais dire... enfin, on appelle quelqu'un par un prénom usuel et non par son prénom de baptême. Est-ce que c'est parce que son père s'appelle donc voilà comme lui? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons pour qu'on utilise en fait un prénom usuel?
Alors, il y a certainement d'autres raisons. J'ai trouvé ce cas plusieurs fois. Par contre, donc la raison la plus évidente, ça sera toujours que il y a une homonymie dans la famille. On peut supposer, puisque je n'ai pas eu le temps de vérifier mes théories, on va dire, que il y avait un intérêt à porter le prénom de quelqu'un qui nous était cher ou qui nous a marqué. Et à ce moment-là, comme on pouvait plus ou moins se permettre de se faire appeler comme on voulait, puisqu'il n'y avait pas de carte d'identité et tout eh bien, ça pouvait être important pour un individu de porter le prénom de quelqu'un d'autre.
D'accord. Et comment... ouais, après, bon, c'est vrai que j'imagine que c'est selon les familles, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, en fait, appeler deux personnes par le même prénom dans un même foyer. Enfin, ça semble complètement... aujourd'hui, on ne se voit pas dire Jean, alors qu'il y en a quatre, en fait, dans la famille. Enfin, je veux dire, sans savoir à qui s'adresser. Ça nous semble, en fait, plutôt logique. Et tu as évoqué, donc, les difficultés, voilà, que tu pouvais rencontrer en tant que généalogiste, quand des personnes portaient, donc, le même prénom et le même patronyme sur plusieurs générations, mais est-ce que cela peut être facilitant?
Ah oui, tout à fait. On peut voir ça dans le sens inverse. Par exemple, si je cherche, on va dire un exemple concret, mon ancêtre s'appelle Louis Minier. Bon, il est né le 4 octobre 1766 à Montoux-sur-Cher. Il est fils de Charles Minier et de Catherine Thion. Donc, moi, je vais chercher Louis Minier, donc je vais chercher aussi le mariage de ses parents que j'ai estimé entre 1764 et 1766. Donc 1766 parce que c'est la date de naissance de Louis.
Oui.
Donc comme il est dit enfant légitime, je sais que les parents sont déjà mariés.
Oui.
Eh bien, comme on avait tendance à donner le prénom de l'aîné au premier-né, eh bien, je vais chercher, je vais remonter dans le registre jusqu'à retrouver un Charles Minier. Si j'en trouve un, je vais me dire, c'est certainement le premier enfant ou une Catherine Minier. Et effectivement, la plupart du temps, ça se vérifie, on retrouve l'acte de mariage des parents juste après.
D'accord. Donc, ça, c'est l'aspect, en fait, donc, facilitateur. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre, en fait, sur les prénoms? C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir remonter de manière, en fait, historique. Qu'est-ce que tu peux dire?
Alors, on peut dire beaucoup de choses sur les prénoms. Donc, en fait, il nous indique beaucoup de choses, les prénoms. Ça peut être un indicateur générationnel. Donc, par exemple, quand aujourd'hui, on entend quelqu'un qui porte le prénom Gertrude ou Anselme, on se dit, voilà, cette personne a vécu à une certaine époque. Bon, évidemment, il faut nuancer ça avec le retour à la mode des anciens prénoms, parce que tout dépendra des époques à laquelle on cherche ça. Il y a eu, par exemple, quelque chose des fantaisies à la Révolution. On trouvait des prénoms très, très particuliers, comme Marat, comme Liberté. Donc ça, c'était vraiment des prénoms typiquement... Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques temps à la Révolution. Mmh. Mais ça nous donne une indication de la période à laquelle a vécu la personne. Ça peut être aussi un indicateur géographique. Donc, par exemple, quand on retrouve des prénoms bretons à l'autre bout de la France ou pas, on peut se dire, peut-être que l'origine de la famille, si on la cherche, il faudra aller la chercher en Bretagne et non à l'autre bout de la France. Donc, il y a des prénoms très typiques, bretons, bourguignons, occitans, enfin, peu importe. On a aussi des endroits où il y avait des saints locaux et on trouve particulièrement représentés certains prénoms comme Marius en Provence ou Léonard dans le Limousin. C'était vraiment une façon de se mettre sous la protection du saint local.
D'accord. Et donc, ce qui permet de trouver donc, l'origine géographique natale, en tout cas,
alors,
de
la personne. Alors, ça permet souvent de localiser. Il y a, par exemple, un prénom qui est extrêmement parlant et qui est très typique d'un seul endroit, en fait, de la paroisse de Neuilly-Saint-Front dans l'Aisne, le prénom Frontenette. Il n'y a que là qu'on le trouvera. Mmh. Mais on se dit que si on le trouve, alors là, forcément, on connaît l'origine de la personne. Mmh. Mmh.
Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs, en fin de compte, par rapport au prénom, justement, là, en dehors de la géographie?
Alors oui, un indicateur social dans le sens où il y avait certains prénoms comme Eudes, Hugues, enfin des prénoms Arthur, c'était vraiment porté plus particulièrement par la noblesse ou la bourgeoisie. C'est pas des prénoms qu'on va retrouver, j'ose dire, le petit peuple, les paysans, qui eux ont gardé des prénoms traditionnels. Ils s'appelaient Martin, ils s'appelaient Jean,
Pierre, enfin oui.
Donc ça permettait en fait dans les grandes familles aussi de... Alors, non seulement à travers le nom, mais aussi à travers le prénom, de transmettre, comment dire, continuité d'un lignage bourgeois. Voilà.
Et du coup, il y a... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres, en fait, indicateurs? Est-ce qu'il y en a... Enfin, est-ce que tu pourrais nous en citer d'autres?
Un qui est évident, et surtout de nos jours, avec tout le brassage qui existe partout des populations, c'est l'indicateur de nationalité ou de religion. Là, je ne vais pas rentrer dans les prénoms, ça paraît évident. Prénom italien, prénom juif, prénom... Voilà.
Alors, c'est vrai qu'on aurait, en fait, beaucoup de choses à dire sur la signification du prénom. D'ailleurs, on s'interroge sur proposer, en fait, une autre émission sur cette signification. En fait, voilà, on y réfléchit. En tout cas, on parlera très certainement et très vraisemblablement, en fait, du patronyme, puisque là, je pense que, là encore, on aura plein de choses, en fait, à dire.
Tout à fait.
Donc, ça sera la suite du prénom. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore à toi, Claire, pour ta participation et celles à venir. Merci également à Vincent, qui était donc à la technique. Et je vous dis à bientôt.
Radioactive!
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Mag d'Actu sur Radioactive. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, je vous emmène au centre d'art Le Garage à Amboise, qui accueille en résidence depuis plusieurs semaines un jeune artiste talentueux originaire de Tours, j'ai nommé François-Xavier Chagnoux. Un jeune artiste au palmarès impressionnant, diplômé de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, nominé aux Oscars en 2009 pour un court-métrage réalisé à l'École des Gobelins, il a remporté plusieurs prix internationaux, dont le premier prix de dessin de la Fondation Taylor Paris. Exposé dans de nombreuses galeries, mais aussi dans des foires d'art internationales, c'est dans le centre d'art du Garage à Amboise qu'il a posé ses valises après avoir voyagé et fait un travail de recherche en Nouvelle-Calédonie. François-Xavier Chagnoux questionne les mécanismes de mondialisation, de migration et d'acculturation. Nous avons eu la chance de le rencontrer et d'échanger avec lui en le débauchant quelques minutes pendant l'installation de cette expo. Alors François-Xavier Chagnoux, merci de répondre aux questions de Radioactive. Bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Avec grand plaisir. Donc c'est un mois de résidence qui se termine au Centre d'art du Garage à Amboise.
Exactement, vernissage après-demain. Donc demain, tout est bouclé.
Ok, ça aura servi à quoi ce mois en résidence? À réaliser quelles œuvres?
Là, j'ai réalisé pas mal d'œuvres ici. Il y a des œuvres qui sont in situ, donc qui étaient vraiment pensées pour le lieu, qui ont été installées littéralement dans les murs. Toute cette table vibrante, enfin bon, il y a pas mal d'œuvres avec une grosse installation que je vous laisserai découvrir. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais une installation qui était assez laborieuse à réaliser.
Alors l'exposition, elle s'appelle Océanotropique, zone de confluence. Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver?
Alors, on va retrouver plusieurs choses. Donc, l'exposition ici fait partie d'un projet plus global qui englomérait plusieurs antennes au travers le monde. C'est un projet que j'ai commencé en 2020, donc avec Galerie Exo, le Château de Tours. Et donc après ça, je suis parti moi au bout du monde pour faire une résidence de 9 mois au Centre culturel Tibaou, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et au Vanuatu, qui est encore plus loin. C'est un archipel qui est au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, où là, j'étais hébergé grâce à l'Alliance française dans la Fondation Suzanne Bastien. Donc, je suis resté 9 mois là-bas. Donc, j'ai fait 2 expositions sur place, une collective et une très grosse monographique. Et donc, le garage faisait déjà partie du projet dans la mesure où je savais qu'il y avait certaines œuvres que j'allais concevoir ici, certaines que j'allais rapatrier. Donc là, je les ai récupérées il y a 3 jours, justement. Elles ont voyagé pendant 3 mois.
Elles vont arriver à temps, alors, pile poil.
Elles sont arrivées pile poil à temps. Là, on les a accrochées hier. Donc, tout ça se boucle vraiment bien. Et donc, c'est un projet, encore une fois, un projet global avec des sculptures, des dessins, des photographies, des installations, notamment des installations que j'ai jamais montrées, qui sont vraiment inédites, que j'ai faites pour le lieu, que j'avais déjà en tête il y a plusieurs années avant de partir au bout du monde. Et je savais que j'allais les présenter ici, du coup. Donc, voilà.
Alors, c'est quoi la spécificité artistique de François-Xavier Chagnoux ?
Comme je vous l'ai dit, moi je suis un artiste visuel, donc je suis plasticien, donc je suis à la fois dessinateur, sculpteur, photographe, réalisateur, graveur. En fait, j'ai pas vraiment de spécialité, mis à part le dessin, parce que toutes mes œuvres passent toujours par le dessin. Mais après cela, en fait, c'est vraiment l'énoncé ou l'idée ou le concept que j'ai en tête qui va déterminer le média et les matériaux qui vont être le plus appropriés pour mettre en avant cette idée. Donc parfois ça va être le dessin, parfois ça va être la sculpture, la marqueterie, la gravure, la photographie argentique. Là on a des installations protocolaires avec des dispositifs qui sont performatifs. Donc voilà.
Moi j'aimerais bien connaître un petit peu le parcours artistique, parce qu'il y a eu des belles étapes dans ce parcours.
Oui, alors avant d'être vraiment artiste contemporain à temps plein, j'ai travaillé dans le cinéma justement, j'étais réalisateur et notamment dans le cinéma d'animation. Et j'ai travaillé dans des grands studios, et voilà, j'ai parti aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, j'ai été nominé aux Oscars quand j'avais 25 ans. Et après ça, j'ai repris mes études d'art justement en Bretagne. J'ai tout plaqué pour repasser mon diplôme d'artiste, on va dire. Et voilà, là maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis artiste contemporain à temps plein, ouais.
Et alors, la question qu'on se pose, j'imagine, quand on est auditeur, c'est est-ce qu'on arrive à en vivre de tout ça, de son travail d'artiste ?
Ça va, je touche du fusain pour l'instant, donc tout va bien. Voilà, après, voilà, ça dépend ce qu'on entend par vivre, mais non, moi ça va, j'ai pas à me plaindre.
Alors, qu'est-ce qu'on dirait aux auditeurs de Radioactive pour leur donner envie de venir découvrir cette expo, et notamment ça démarre ce vendredi 5 avril à partir de 18h. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur donner très, très, très envie de venir?
Je voulais juste revenir sur la question que vous avez dit juste avant, du coup, par rapport au fait de vivre. Je tiens à remercier aussi tous les partenaires qui me suivent depuis maintenant plus de 10 ans et qui me permettent de continuer ma pratique artistique. Moi, en tout cas, j'ai une pratique qui est assez onéreuse et grâce au soutien de la Région Centre, de l'Institut français, des ministères divers, du CNAP, de l'Alliance française. Voilà, ce sont des institutions qui financent et qui permettent d'élaborer des projets vraiment ambitieux et de permettre de faire des œuvres. Voilà, qui seront pas forcément achetés par des collectionneurs, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Et alors, qu'est-ce que je peux dire aux visiteurs? Ben voilà, ce que je viens de vous dire, c'est que c'est une exposition sur laquelle je travaille depuis 6 mois maintenant, que c'est un projet global que j'ai entamé en 2020, donc il y a 4 ans, qui agglomère tout un tas de médiums, que j'ai pensé vraiment comme un laboratoire artistique, donc dans lequel on peut voir justement des dessins, des sculptures, des installations, une vidéo, des installations performatives. Et aussi des œuvres justement qui ont eu le mérite d'avoir traversé 22 000 km pour venir ici et qui seront voilà, visibles au centre d'art. Donc voilà.
C'est déjà de très beaux arguments. Alors tout à l'heure, on a entendu, on ne va pas le dévoiler, mais une ambiance sonore, c'est prévu aussi ça?
Oui, tout à fait. Pour cette installation protocolaire, performative et interactive. Donc les gens vont aussi participer dans cette installation. Ils vont l'activer ou pas, justement. Ça, c'est un point qui est très important, c'est que je leur laisse le choix, le libre arbitre, de ne pas le faire. Qui peut être peut-être même plus important que de le faire, à mon sens. Et donc tout ça sera expliqué, évidemment, soit par la médiation. Il y a plusieurs fois où je vais quand même faire des visites ici. Et oui, l'ambiance sonore, en effet, est très présente. Justement, ce sont des sons que j'ai enregistrés lors de cette résidence au bout du monde, pendant 9 mois, où j'ai enregistré tout un tas de sons et d'ambiances différentes. Et donc, il y a cette idée de parallèle entre la région centre et l'antipode du globe pour voilà, tisser un aller-retour entre ces deux institutions qui étaient importantes pour moi. Voilà.
Eh bien, merci François-Xavier Chagnoux. On conseille à tous les auditeurs de venir découvrir, parce que nous, on a déjà vu des petites choses, n'est-ce pas, Catherine?
Oui,
on a
très, très jolies choses. Très jolies choses.
Voilà, donc merci encore de votre accueil et puis on vous souhaite une belle expo.
Ben, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai oublié de remercier surtout aussi Amboise, le Centre d'Art, qui m'ont invité à faire cette exposition avec sa directrice Clémence Thébault, qui fait un travail remarquable, du coup, avec les artistes. Donc, merci à toute la ville d'Amboise, à tous les gens qui m'accompagnent, qui me soutiennent, qui croient en mes projets et voilà, qui sont vraiment des atouts essentiels pour moi. Donc, merci. N'hésitez pas à venir. Vernissage, vendredi, 18h.
Et vendredi, on sera le 5 avril.
Exactement.
Merci, François-Xavier.
Merci beaucoup.
L'accès au vernissage et à la visite de cette expo sont entièrement gratuits, alors aucune raison valable de ne pas aller la découvrir. Le centre d'art Le Garage, c'est 1 rue du Général Foy à Amboise. C'est en accès libre du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, mais aussi les samedis et dimanches de 11h à 13h, puis de 14h30 à 18h30. Et vous pouvez compter sur l'accueil souriant et attentif de Clémence Thébault, responsable des lieux. C'est la fin de ce mag. Si vous en avez raté une miette, vous le retrouverez sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. À très vite.
Radioactive.
Bonjour à vous tous, auditeurs de Radioactive, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour un nouveau point d'information local. Et à la une de l'actualité de ce jeudi 4 avril 2024, on retrouve la tenue ce matin d'une manifestation des professionnels du secteur social et médico-social devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Ils étaient en effet entre 100 et 150 à s'être réunis en début de journée à l'appel du syndicat CGT Santé 37 pour dénoncer la dégradation de leur salaire, de leurs conditions de travail et par extension de la qualité de prise en charge des personnes. Des métiers décrits comme sous-payés et souvent même en dessous du SMIC, selon Jean-Baptiste Quiban, représentant de la CGT Santé Action Sociale, qui s'est exprimé dans les colonnes de La Nouvelle République. Plus largement, les syndicats s'inquiètent du plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncé par Bruno Le Maire en février pour le secteur du médico-social justement. Ce tour de vis risque bien en effet d'empirer une situation déjà difficile. Ainsi, Jean-Dominique Audebert, le secrétaire départemental de la FO Action Sociale, appelle lui aussi dans les colonnes de La Nouvelle République à une grève totale du secteur. Dans l'actualité également, après la manifestation des enseignants et des parents d'élèves qui a eu lieu le 2 avril dernier en opposition au projet de choc des savoirs dans les collèges à partir de septembre prochain, les syndicats CGT, Éducation, FSU et Sud Éducation, entre autres, appellent à un nouveau rassemblement dans le même sens pour ce samedi 6 avril. Le rendez-vous est fixé place Jean Jaurès à partir de 10h. De plus, les syndicats appellent également au soutien et à la participation des enseignants du secondaire à la nouvelle opération Collège Mort prévue pour le vendredi 12 avril prochain. Et on finit ce point information locale par du sport avec une nouvelle victoire des Tourangeaux en volley-ball face à l'équipe de Montpellier. C'était hier soir. Le match s'est joué à domicile et s'est clôturé avec un score de 3-7 à 1. Et ce, après un match déjà victorieux pour les Tourangeaux la semaine passée où ils s'en étaient sortis avec 3-7 à 2. Voilà, c'est tout pour ce point d'information locale sur Radioactive. Nous, on se retrouve demain pour le dernier point de la semaine. Et en attendant, bonne écoute de la suite des programmes.
Radioactive.
Toute la vie locale dans une radio.
94.7, la Touraine dans la radio.
La Touraine.
Radioactive. Radioactive. Radioactive.
Toute la vie locale dans une radio. Trouve ton job. La mission locale Loire-Touraine et Radioactive te donne rendez-vous tous les mardis à midi pour trouver ton job,
ta formation,
ta mission d'intérim,
ton apprentissage,
des annonces,
des conseils,
des interviews d'entreprise,
d'organismes de formation.
Trouve ton bonheur dans l'émission Trouve ton job.
Bye. Dans les champs de roses, visiter les les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Décroche-la si tu l'oses. Oui, décroche-la si tu l'oses. Hey. Si tu l'oses.
Radioactive.
Dans les prés, il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien.